tous sur Radio Canal Sud. Aujourd'hui, nous retrouvons le collectif Archi Mouvementé, composé de 7 spécialistes architectes qui sont des collègues à moi. Alors, je travaille sur un projet qui traite de la ville en mouvement, donc on va en parler un peu plus amplement aujourd'hui. Je vais passer la parole à Alexandre Alf, un membre du collectif. Bonjour Alexandre.
Bonjour, merci Télida pour me recevoir aujourd'hui. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, ce collectif est né de notre rencontre tout d'abord à l'ENSA de Toulouse, lors de notre cursus. De nombreuses réflexions et discussions ont justement modelé notre vision de l'architecture, de la ville, mais aussi des usages qu'on peut y retrouver. Et c'était à la suite du premier confinement et de la remise en question de notre discipline suite à la pandémie que le collectif a pris une certaine importance dans la vision et la perception des villes. Pour comprendre ces différents questionnements, nous avons mené donc une enquête dans les rues de Toulouse, justement pour comprendre la perception de la ville, notamment de Toulouse. Donc nous allons retrouver Carole, 37 ans, qui travaille dans l'aéronautique, pour nous donner sa vision de Toulouse.
Quotidiennement, que représente pour vous la ville de Toulouse ?
Quotidiennement, là actuellement, c'est plus une source d'étouffement pour moi.
Suite à cette vision de la ville, ce sentiment peut être causé par la situation actuelle, mais aussi par un travail assez prenant, notamment dans l'aéronautique, dans le cas de Carole. En effet, la métropole toulousaine est un bassin d'emploi assez important, notamment avec une industrie forte, dont l'aéronautique, qui est majeure. On travaille sur les influences urbaines et sur l'impact de l'aéronautique à Toulouse, met ainsi en évidence une ville qui évolue constamment, en lien avec justement l'aéronautique, avec de nouveaux quartiers, de nouveaux besoins pour l'industrie, un nouveau mode de pensée, mais aussi de nouveaux équipements et une nouvelle vision de la ville, avec différentes pratiques causées par différents habitants.
Et puis, bien sûr, vous en doutez, évidemment, l'impact du Covid n'a pas été chose facile. Donc, nous allons essayer de voir un petit peu ce que ça a changé pour les habitants de Toulouse. Nous allons de suite écouter donc une autre interviewée, Michel, 63 ans, retraité.
Et comment percevez-vous la ville maintenant avec le Covid ? Du coup, comment sont changés les espaces publics, peut-être ? Comment vous les viviez ?
J'ai la chance d'avoir une maison avec un jardin avenue de Muret, donc j'avoue ne pas avoir été gênée par le confinement. Après, d'ailleurs là j'y vais, j'ai un papa handicapé qui est à Arnaud-Bernard. Et c'est vrai que pendant le confinement, de traverser la ville, parce que j'en profitais pour rentrer à pied, de traverser la ville vide, la place du Capitole, m'a choquée. Là, je ne suis pas encore allée en ville, mais bon, je suppose que la rue Alsace, Saint-Rome, tout ça, ça va être de nouveau le désert. Peut-être un peu moins parce qu'on a la liberté quand même un peu de sortir. Mais c'est triste, c'est extrêmement triste.
Très bien. Carlotta, une spécialiste architecte donc, qui est avec nous, va nous rebondir un petit peu sur ce que Michel a dit. Qu'est-ce que tu en penses ?
Bonjour déjà à tous et merci beaucoup. Nous avons pu écouter un extrait de Michel qui nous a parlé de sa perception de l'espace public de la ville pendant un moment assez particulier, un moment de pandémie. C'est clair qu'en ces moments, la ville est en plein changement et ça m'amène à réfléchir à comment la ville est en train de changer et pourquoi. Alors, c'est sûr qu'il y a une différence énorme par rapport à les espaces publics, comment c'était avant et comment sont maintenant et comment on peut les habiter. Parce que en ce moment, les espaces publics ils sont de plus en plus interdits ou limités. Je dirais surtout limité en ces moments, vu que le gouvernement nous impose un couvre-feu à 19h, qu'avant c'était encore plus tôt, c'était à 18h. Et donc on est obligé d'une certaine façon de rentrer chez nous et de quitter les espaces publics à une certaine heure. Et pour moi, du coup, c'est clair qu'à cause de la pandémie, nos rythmes de vie sont beaucoup changés. Et on est donc obligé à réfléchir à nos journées d'une façon assez différente, vu qu'on n'a plus le droit de rester dehors autant qu'on veut. Et tout ça, en fait, m'a amené à réfléchir sur les différents rythmes urbains et individuels qui peuvent se développer dans une ville ou un quartier. Et donc, j'ai commencé à conduire des études sur les différentes rythmologies qui peuvent se développer dans ces moments assez complexes, celui de la pandémie, au quartier du Carme, notamment dans la place du marché. C'est assez important de dire que le quartier, normalement, c'est un quartier très rythmé, très animé par les marchés, les bars, les restos, toutes choses que maintenant n'existent plus, et aussi le métro. Et c'est pour ça, du coup, que je trouvais assez intéressant d'étudier les quartiers de ce point de vue. Et en plus, en habitant le quartier, je me suis rendu compte que la pandémie a complètement changé la façon de vivre et de s'approprier des espaces publics. Et c'est du coup assez intéressant, à mon avis, de remarquer comment l'être humain s'adapte à cette nouvelle façon d'habiter la ville, réglementée par toutes les restrictions qui sont liées à la pandémie qu'on est en train de vivre en ce moment. Mmh. Voilà.
Alors, c'est marrant parce que tu parles de rythmologie, donc je pense que ça peut intéresser une autre personne qui est parmi nous. Donc je pense notamment à Élodie Daguet, une autre spécialiste. Mais nous allons tout d'abord, à travers nos masques, lui souhaiter un joyeux anniversaire. Donc, bon anniversaire, Élodie.
Encore une année passée, encore une bougie de soufflé, encore une année passée.
Merci à tous. Je suis très contente de passer ce moment en votre compagnie. J'aurais bien sûr aimé retourner dans ma famille, mais confinement oblige, je suis restée à Toulouse. C'est surtout triste de voir en fait les bars et les restaurants fermés. Il n'y a plus beaucoup d'espace de loisirs. Bon, en tout cas, c'est d'ailleurs une partie de mon sujet de recherche. Comme le disait Elida, je suis architecte et chercheuse sur les questions des rythmes et des intensités, tout comme Carlotta Pezzol.
D'accord, très bien. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, du coup, sur cette thématique ?
Oui, tout à fait. Alors, en fait, les rythmes me sont venus à travers la notion de densité. Vous savez, on dit souvent que Paris est l'une des villes les plus denses du monde. En fait, ça veut juste dire qu'il y a beaucoup de personnes sur une surface donnée. Mais ça ne nous donne aucune information sur l'intensité de cet espace, sur la vie qui s'y passe, finalement. Je cherche donc à créer les outils permettant de quantifier et percevoir les rythmes et l'intensité. Et d'ailleurs, actuellement, je les applique au quartier de la gare de Matabio à Toulouse. Durant les différents confinements, on voit bien que ce quartier a beaucoup changé. Pourtant, sa densité est restée la même. Elle n'a pas changé, elle. En fait, je cherche surtout à montrer une approche augmentée de ce quartier et j'espère que ça servira pour la fabrication de la ville.
Donc, Élodie nous a parlé des différentes rythmologies et des différents usages. Ça me fait penser aussi à un autre sujet qu'une des spécialistes a également traité, donc Télida Benaïssa, qui est moi-même, en fait. Donc, je vais vous en parler un petit peu plus. Mais avant tout, nous allons réécouter Michel et un extrait de son entretien.
Au niveau de... la municipalité, je crois qu'ils ont fait quand même pas mal de choses pour faciliter, notamment pour les étudiants, avec des restaurateurs ou des entreprises ou des, comment on appelle ça, des grandes surfaces, de pouvoir faciliter la vie des jeunes étudiants qui, je pense, ont beaucoup souffert. Je pense aussi aux gens de la rue où c'est pas toujours simple non plus. C'est une période qui est vraiment très bizarre. Il y en a ras-le-bol, quoi.
Oui. Alors, voilà, Michel parle d'un sujet qui est assez sensible. Au final, elle émet cette notion, en fait, de précarité, que j'étudie aussi énormément dans un quartier de Toulouse, notamment sur l'île du Ramier. Donc, c'est un quartier qui peut paraître peut-être moins occupé, parce qu'il y a beaucoup de végétation, beaucoup d'espaces verts. Et pourtant, c'est un site qui est très investi par l'habitat informel, donc l'habitat précaire. Les bordures de Garonne sont énormément habitées par des habitants de la précarité. On y retrouve vraiment de tout, donc des jeunes, des personnes un peu plus âgées, des célibataires, des personnes en famille, entre amis également, et beaucoup de cultures qui sont très différentes. Ces personnes-là habitent donc très différemment. Il y en a qui sont dans des tentes, d'autres dans des cabanes, certains vivent dans des caravanes. Et finalement, c'est une, une manière d'habiter la ville qui est assez différente, puisque l'espace public sur l'île du Ramier est finalement un petit peu à l'abri des regards. Donc c'est des espaces qui sont très différents, où on va retrouver beaucoup de personnes qui ont du mal finalement à financièrement s'auto-assumer. Mais c'est très différent finalement des SDF qu'on peut voir dans le centre-ville. Ils ont une manière d'habiter qui est bien différente. Donc c'est une nuance, je pense, qui est importante à voir et qui fait qu'on utilise l'espace de manière très, très diverse finalement. L'île du Ramier regorge d'une diversité d'usages et de ressources qui vont permettre à des gens qui n'ont pas forcément les moyens de se loger de tout de même développer des pratiques et des manières d'habiter, même à l'extérieur, même quand ils n'ont pas de l'eau courante ou de l'électricité, puisqu'ils vont tout simplement utiliser les ressources de l'île pour pouvoir habiter comme toute autre personne. Ce sont des personnes qui sont exclues du centre-ville et de la ville un petit peu de Toulouse, puisqu'elles vont partir, elles vont aller vivre dans des habitats, dans des espaces plutôt qui sont moins couramment investis où il y aura moins de passants pour qu'ils évitent en fait tous ces regards. Donc je pense qu'il y a cette idée d'exclusion qu'on peut retrouver aussi dans un autre sujet, dans celui de Mélanie. Mais avant ça, on va écouter un extrait d'une autre personne interviewée, Nicolas, qui a 30 ans et qui travaille dans l'aéronautique.
Donc du coup, moi j'ai entendu dire « Ah ouais, je suis passé à Bellefontaine, je suis passé au Mirail, peut-être tu les verrais, ils sont tous là, sans les masques. » Ouais, mais en fait, ils sont parqués à leur endroit et puis mais on a l'impression qu'on n'a pas envie de voir les gens, les pauvres dans la ville. Donc ça pose problème.
C'est tabou un peu. Ouais.
Moi j'imagine que ça doit, la vie pour ces gens-là, c'est une vie de frustration et du coup... Et du coup, faut lutter contre ça, faut faire en sorte que ça s'intègre beaucoup mieux. Surtout une ville comme Toulouse, ouverte et tout ça, où les gens sont cool. Normalement, les gens sont plutôt de gauche.
Ouais.
on a tout ce qu'il faut pour être un modèle d'intégration de ces populations. Et pour l'instant, c'est pas le cas.
D'accord. Merci beaucoup.
Ok, de rien.
Pas de soucis.
Merci.
Donc Mélanie, qu'est-ce que tu en penses finalement de ce sujet-là d'intégration, de lutte?
Alors bonjour.
Bonjour.
Merci. Donc ce que dit Nicolas, mieux intégrer les populations en ville, c'est une phrase qui veut dire beaucoup de choses. Mais l'idée principale qu'elle dégage finalement, on peut dire que je suis assez d'accord avec son idée. Notamment ce qu'elle pourrait vouloir dire quant à la question de l'intégration plus égalitaire du genre féminin dans l'espace public. C'est depuis plusieurs années un sujet qui est au cœur de nombreux débats. Et la question du genre, elle fait peu à peu son apparition dans les projets urbains et dans la fabrication des villes. Mon travail, il a été, et il est toujours, de me pencher sur ce débat et de comprendre ce qu'est finalement la ville genrée et où se trouvent finalement les inégalités et donc où est le problème de cette non-intégration de la femme au même titre que l'homme. Les espaces publics aujourd'hui, par exemple à Toulouse, ils ont un sexe. Quand je dis ça, je parle par exemple des écoles et des rues commerçantes qui vont avoir plutôt une étiquette féminine. Au contraire, les stades et les cities, par exemple, vont avoir une étiquette un peu plus masculine. Et c'est avec toutes ces études-là qu'on voit que les hommes actuellement, ils stationnent en ville. Là où la femme ne fait que passer. Et c'est une idée qui a un sens finalement logique quand on sait que ce sont majoritairement les hommes qui fabriquent les villes aujourd'hui, qui pensent les projets urbains. Les inégalités, elles vont aussi se faire dans un sentiment d'insécurité. On va avoir des limites invisibles qui vont se créer au fil du temps, qui se sont créées au fil du temps pour les femmes et qu'elles vont respecter volontairement ou pas pour éviter des dangers. Et quand je parle de dangers, je parle de la femme voilà, sans tabou comme objet sexuel, la femme qu'on va suivre dans les ruelles, la femme qu'on va frotter dans les transports en commun. Et on va avoir une inégalité forte qui va se faire à ce niveau-là aussi. Alors on pourrait se dire qu'on ne va pas agir sur l'espace public parce que c'est finalement pas sa faute, ça va être la faute des comportements. Mais ce serait utopique de dire qu'on pourrait avoir un pouvoir finalement sur, sur l'éducation des gens, l'éducation des hommes, ou en tout cas leur comportement jeune ou moins jeune. Donc on va essayer d'agir sur une chose sur laquelle on a finalement du pouvoir, qui va être l'espace public, et donc à vocation de mieux intégrer la femme dans l'espace public de manière plus égalitaire. Aussi peut-être penser à envisager que la femme soit plus présente aussi dans les propositions de projets urbains à l'avenir et dans la fabrication des villes futures. Alors oui, le monsieur dit Toulouse a de bonnes clés pour mieux faire passer cette idée d'intégration. Oui, on a les clés, sûrement, mais on a aussi beaucoup de travail à envisager à ce niveau-là, et notamment à Toulouse.
Tout à fait. Merci Mélanie de t'être exprimée sur cette thématique qui est encore au cœur des débats actuels. C'est vrai que cette question de discrimination, elle est là, elle est présente, elle est même omniprésente. Finalement, on se demanderait, est-ce qu'elle se retrouve dans les quartiers aussi ? Comment est-ce qu'on habite finalement un espace public dans un quartier ? Donc on va écouter ce que Renaud et Nicolas nous disent, tous les deux 30 ans. Donc Renaud qui travaille en logistique et Nicolas en aéronautique.
Mais comment imaginez-vous la vie, dans les quartiers, dans des quartiers un peu particuliers de Toulouse, par exemple le Mirail, ou des quartiers un peu plus
actuellement,
populaires.
Actuellement, comment on imagine ?
Oui.
Ouais, c'est ça.
Enfin, avec le Covid, du coup.
Oui.
Ah, ok. Bah, c'est triste, quoi. J'imagine que.
Ouais.
Je sais pas comment. Moi, après, j'habite. Je suis pas dans un quartier déjà vivant. Enfin, là où j'habite, je suis vraiment à l'extérieur, enfin, Nord Toulouse. C'est vraiment des axes, des axes commerciaux, en fait. Donc, moi, j'ai pas connu, en fait, la vie de quartier toulousaine dans le centre.
Ah ouais.
Tu vois, j'ai pas. Par exemple, comme la place du Ravelin.
Oui, c'est ça. T'as toujours été un peu loin.
Toujours été un peu loin, donc ouais.
Mais justement, comme les quartiers, ce que vous appelez les quartiers, c'est les quartiers sensibles de Toulouse.
Ah là, oui, par contre, ouais.
Oui, un peu.
Quartier populaire.
Ouais.
Ok. Comment on imagine là-bas la vie dans le Covid, c'est ça ? Avec toutes les restrictions.
Quartier plus sensible, du coup. Ou...
Enfin, oui. Ouais.
Je sais pas vraiment. Est-ce que pour eux ça change quelque chose ? Parce que déjà il y avait d'ores et déjà de la discrimination dans les bars et dans les clubs pour ces personnes-là de rentrer.
Ouais.
Oui.
Donc pour eux c'est interdit, mais ça l'était presque déjà avant. Alors comment c'est la vie ? Donc forcément quand on vit beaucoup dans un petit espace, ça doit être très très dur parce qu'il reste plus que les lieux publics et tout. Et étonnamment, moi je les vois pas trop.
Alors oui, donc il y a ces questions-là en fait. On parle beaucoup de petits espaces, mais c'est vrai que dans les quartiers, du coup, on va avoir beaucoup plus de grands bâtiments et des espaces qui sont plus restreints. Shaimae, est-ce que tu penses que tu peux t'exprimer sur cette question-là ?
Ben bonjour à tous.
Bonjour.
Alors moi, je me suis intéressée à l'idée d'explorer des espaces publics à l'échelle du quartier. Car c'est des environnements qui provoquent des formes d'usage et des appropriations différentes à celles des espaces publics de centralité. Dans les quartiers, les gens s'identifient individuellement ainsi que collectivement à certains lieux utilisés plutôt régulièrement. Il y a des usages quotidiens, personnels, ainsi que des activités collectives qui impliquent toute une communauté. En revanche, au niveau du centre-ville, le trafic et l'anonymat est plus important. Et du coup, séduite par cette première impression, dans ma thèse, j'explore la manière dont les usages et les significations associées à l'espace public sont liés au quartier, notamment le quartier d'études de Negrenaïs, et plus précisément au sein de son grand ensemble, la cité Cafort. Alors souvent, les espaces au sein des grands ensembles, on est d'accord, sont stigmatisés comme des endroits où règne l'insécurité et des trafics en tout genre. Ces espaces se sont dégradés rapidement face aux difficultés de gestion des bailleurs et des collectivités, ajoutant à cela en fait les problématiques de délimitation de ce qu'on appelle l'espace public, privé. Et du coup, cette ambiguïté peut engendrer des vastes espaces libres ou bien vides et des endroits intermédiaires intermédiaire utilisé comme transition seulement. Et du coup, en prenant compte et en considération tous ces dysfonctionnements urbains, j'ai cherché à analyser les caractéristiques physiques des espaces au sein de la cité Cafor, en étudiant les formes d'usage que ses habitants font de l'espace du quartier et en regroupant en fait les significations que ces derniers ont attribuées à chaque endroit. Et du coup, pour rebondir encore plus sur la perception qu'ont les habitants de leur quartier en ce moment-là, Thomas va pouvoir vous en parler encore plus suite à son analyse d'un quartier de Toulouse.
Oui, Thomas va nous en parler, mais juste avant, on va laisser s'exprimer Carole.
Et comment vous imaginez la vie dans les quartiers ?
Très triste. Alors après, je sais pas s'il y a des activités à faire avec des assos ou autres. Je sais pas dans quelle mesure les assos sont ouvertes ou pas. Mais je suppose que dans les quartiers, effectivement, ça doit être compliqué. Être tous parqués comme des animaux dans des barres d'HLM sans pouvoir voir la lumière du jour. C'est d'un point de vue psychologique, mentalement, je pense que c'est très compliqué. Enfin, c'est la vision que je me fais.
Alors, bonjour à tous et merci pour ces présentations. Alors, moi, j'ai pu rencontrer justement ces habitants du quartier de la Rainerie à Toulouse lors d'une étude sur l'identité du quartier. Donc, les habitants en sont très attachés et ont une certaine relation familiale et solidaire qui en émane en fait de leur perception. Donc ils occupent principalement l'espace public vraiment autour de leurs immeubles, de la place aussi du métro à Bâle et autour du lac. Concernant les associations, elles sont pour la plupart assez vides en ce moment en raison de la pandémie. Mais d'autres arrivent quand même à garder contact avec les habitants en proposant des rendez-vous et des suivis individuels qui permettent encore de les aider dans leurs projets administratifs ou encore dans des activités, encore dans la rencontre entre les enfants, donc c'est quand même assez important en ce moment. Et il y a aussi un certain sentiment d'être encore plus voué à soi-même dans cette période de Covid, quand on sait que le lien social aussi fait aussi la richesse du quartier par les rencontres, les échanges, cela se perd un petit peu en ce moment, ces derniers mois. Après, pour ce qui est des logements, pour beaucoup des immeubles à la Rainerie et au Mirail, les habitations sont assez qualitatives et spacieuses, voire aussi lumineuses. Ils sont quand même assez, ils étaient censés être traversants pour la plupart. Ils offrent aussi des qualités spatiales assez généreuses. Et donc c'est une architecture aussi moderne, héritée des années 70, qui a pour beaucoup d'habitants, ils s'y plaisent vraiment en fait. Et c'est aussi un rapport qualité-prix qui leur convient assez bien. Mais aujourd'hui, quand on sait que dans le futur, projet de renouvellement prévu sur le quartier à l'horizon 2030, environ 80 à 85% de ces tripodes, donc ces grands immeubles que l'on connaît aujourd'hui à la Rainerie, vont être détruits. Cela va totalement refaçonner en fait l'identité et l'image du quartier que l'on connaît aujourd'hui et qui est déjà très différent du projet initial, initialement fait donc par les architectes de l'époque, qui étaient Candilis, Josic et Woods. Donc cela questionne également aussi sur la population présente aujourd'hui sur le quartier et son devenir en fait. Enfin, ce quartier qui a connu de nombreuses transformations depuis sa création, mais ça pose aussi la question de qu'est-ce qu'il en sera demain et s'il est voué à disparaître ou plutôt seulement à évoluer. Donc ça pose toutes ces questions. Et les habitants ont quand même cette impression et ce sentiment de ne pas être écoutés et pris en considération. Donc ce projet de renouvellement est vécu comme une chance pour certains, notamment avec les jeunes que j'ai pu rencontrer pour pouvoir quitter le quartier aussi et s'ouvrir aux autres, mais aussi vécu surtout pour la plupart pour un choc aussi, voire un drame, pour ceux qui sont vraiment présents depuis les racines presque du quartier et sa création. Donc voilà, tout cela a questionné mon travail sur ce quartier et sur son identité. Jusque-là, nous avons pu beaucoup parlé de la ville, mais nous avons peu finalement parlé un peu des espaces un peu plus ruraux en périphérie de la ville. Donc on a pu tomber sur une personne qui a parlé un petit peu de ces espaces et qui permet aussi de donner un autre point de vue.
Alors totalement, on va écouter Daniel, 68 ans, retraité de la mission locale.
Comment la percevez-vous avec le Covid et du coup les espaces publics sont changés
Nous, on a beaucoup de chance en campagne ici pendant le Covid. C'est la première fois que je viens. Alors, pour l'instant, j'ai garé ma voiture, je suis là, j'attends ma femme qui sort.
Et en campagne, sinon
Nous, on est libre, on a de la chance, quoi. Hein. On a des jardins, on a des parcs.
Il y a peut-être, même s'il y a les restrictions, il y a peut-être moins de contrôle.
Il n'y a pas de contrôle. Non, on pas de contrôle. Mais on est très, très tranquille, oui.
Alors, on parle de la campagne et puis on va encore plus loin. On accueille parmi nous Emmanuel qui va nous parler de la Guinée.
Et en fait, le Covid, ça n'a pas été, c'est pas la première pandémie que le pays a connue. Ouais. Il y a eu Ebola il y a quelques années qui nous a beaucoup marqués. Et c'est, je pense que c'est ce qui a permis d'avoir une meilleure gestion de la pandémie du Covid-19 quand il est arrivé. Et en effet, il n'y avait pas trop de peur de la population par rapport à cette pandémie-là. Mais l'État aussi a très vite pris les choses en main pour que la maladie ne déborde pas. Très vite, il y a eu d'abord un premier confinement, puis un couvre-feu qui dure toujours jusqu'à 23 heures. Et cela permet quand même aux personnes de pouvoir vivre et aux restaurants de travailler. Et il y a aussi un respect du port du masque et de la distanciation sociale qui est toujours là et qui, je pense, va rester encore plusieurs années.
Eh bien, merci à tous de vous être exprimés et d'avoir passé ce petit moment ensemble. Puis on se retrouve pour de nouvelles aventures de prochaines fois. Merci à tous, au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Merci,
au revoir.
Merci à tous.
Je revois la ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule et la foule vient me jeter entre ses bras. Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulever nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres et je crie de douleur, de fureur et de rage et je pleure. Et traînée par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emportée au loin. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais revu.